Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus donc sur RTL et dans En effet pour s'entendre. Dans deux jours, je vous le disais, sortira un livre choc, La Familia Grande de Camille Kouchner aux éditions du Seuil, un ouvrage qui porte l'accusation de l'inceste sur le politologue Olivier Duhamel. Pour la première fois, une sœur dénonce les violences sexuelles subies par son frère. La parole se libère, les proches s'en emparent. C'est notre devoir, c'est votre devoir à tous de briser le silence. Nous consacrerons donc, je vous le disais, notre émission de vendredi en direct sur RTL à ce douloureux sujet. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur notre page Facebook ou sur RTL.fr ou encore sur Twitter si vous souhaitez témoigner de votre douloureuse expérience. Nous sommes ensemble donc pendant une heure en direct également sur RTL.fr. Soyez les bienvenus si vous nous suivez. Et pour l'heure, donc, je le disais à Pascal Praud, une conversation plus légère sur nos petits comportements qui en disent long. Mais qu'est-ce qui leur prend? Mais quel malin plaisir trouvent-ils à nous chercher sans cesse? Ils ne laissent rien passer aux autres, ils vont au conflit très facilement, ils ne lâchent jamais l'affaire, ils savent appuyer précisément là où ça fait mal, comme s'ils avaient jouissance à générer une dispute. Alors pourquoi certains cherchent-ils toujours la petite bête? Comment interagir avec eux, que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux, familial ou amical? Peut-on éviter de rentrer dans un jeu dont on ne sortira de toute façon jamais vainqueur? Il nous fallait au moins trois invités pour aborder ce sujet. Liliane Roudière, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue Liliane, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et auteur du livre Les gens honnêtes ont-ils un avenir aux éditions First. À vos côtés, Charles Laroche. Bonjour Charles.
Bonjour Flavie.
Bienvenue, bonne année à vous deux.
Bonne année.
C'est vrai en fait. Vous êtes avocat de formation, vous êtes auteur, vous enseignez la rhétorique à Sciences Po, Charles Laroche, Sciences Po Paris ainsi qu'à Eloquentia. Votre livre, Le grand oral du bac pour les nuls, mais également Le petit manuel de la mauvaise foi, c'est aux éditions First. Bonjour Jean-François Marmion.
Salut la compagnie.
Alors quoi? Vous pouviez pas venir nous voir maintenant qu'on peut tous se retrouver dans ce studio, le temps que ça va durer.
Ah bah vous savez, moi je suis à la campagne, il faut que je trouve un tracteur et tout ça, c'est pas facile.
Oh là, ça y est, tout de suite. Soyez le bienvenu Jean-François Marmion, bonne année à vous. Vous êtes psychologue et votre passion, ce sont les cons. Psychologie de la connerie en politique, c'est votre livre aux éditions Sciences Humaines. Alors, je vais me tourner, vous restez avec nous Jean-François évidemment pendant une heure. La question que je posais il y a un instant, c'est qu'est-ce qui leur prend? C'est la première chose que l'on se dit, Liliane Roudière, lorsque l'on tombe sur un casse-pied de première qui cherche toujours la petite bête.
Oui, alors moi j'ai fini par me dire, entre moult solutions, je me suis dit, ce casse-pied-là, voilà, il veut prouver que l'homme descend bien du singe et que, voilà, que le singe passe sa vie à chercher des poux dans la tête des autres.
D'accord, je
et
comprenais
que,
pas.
Voilà, oui, il y a une certaine théorie qu'on a du mal à accepter de temps en temps. Voilà, ça c'est pour soulever un petit peu...
Mais attendez, Charles Laroche, les singes qui se pouillent, ça a une fonction. Quelle est la fonction des chercheurs de petites bêtes?
Alors oui, parce que moi je suis là pour défendre l'honneur des casse-pieds.
Non,
chercher la petite bête
j'en
a un sens.
Sûr.
Alors chercher la petite bête a parfois un sens, c'est-à-dire qu'il y a quand même un noble métier, par exemple c'est celui d'opposant, qui consiste justement à trouver dans les détails, dans les faits, des choses qui peuvent contrecarrer une image qui nous est présentée. C'est peut-être quelque chose qui va avec notre esprit français d'être sceptique, et donc c'est une
sans
bonne
blague.
Chose. Mais lorsque cela dévide son objet et qu'en fait ça ne devient pas un moyen mais une fin, alors là peut-être on peut basculer vers quelque chose qui est plus proche de la mauvaise foi. Donc petite bête oui, mais parfois utile.
C'est plutôt à ceux qu'on va s'attaquer aujourd'hui, hein, à ceux qui sont dans cet extrême justement et qui systématiquement vont venir nous contredire même quand ils savent qu'ils ont tort.
Surtout.
Il y a le jeu, et d'ailleurs hein, certains soulignent comme Tristan, j'avoue j'aime bien chercher la petite bête, pour moi ce sont des joutes verbales et trouver le point faible de l'autre et le voir s'énerver est un bon point que je marque, c'est un jeu, rien de plus. Ouais d'accord, mais il y a quand même des victimes là-dedans. Bonjour, pas bonjour, je vous ai déjà dit bonjour Jean-François Marmion.
Mais on s'en lasse pas.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-François Marmion? Ça doit vous horripiler, ce truc-là.
Ouais, mais je pense qu'il y a deux cas de figure, en fait.
Ah.
En fait, je pense qu'il y a des gens qui cherchent des poux à tout le monde, tout le temps, dans toutes les circonstances.
Par principe.
Voilà, ils sont un peu perfectionnistes. Soit ils sont taquins, soit ils sont perfectionnistes. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais satisfaits. Mmh. Ils vont chercher ce qui ne va pas. Rien de bien ne peut arriver. Et si quelque chose de parfait arrive, c'est un hasard et ça ne va pas durer. Vous voyez, ces gens-là sont vraiment pénibles. Et puis, il y en a d'autres qui sont pénibles, mais uniquement avec vous. Pas avec tout le monde.
Avec vous cherchez perso.
Voilà, il y a quelque chose en vous ou dans votre relation qui ne plaît pas. Et là, ils cherchent à vous faire sortir de vos gonds ou à vous faire remettre en question. Et ce n'est pas du tout le même cas de figure.
Alors, on va accueillir Nicolas. On va demander où il se situe. Bonjour, Nicolas.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Soyez le bienvenu, vous avez 27 ans, vous vivez à Aix-en-Provence, Nicolas. Bon, qu'est-ce qui vous prend alors? Qu'est-ce qui vous motive, vous? C'est le jeu?
Alors oui, je pense qu'il y a une partie du jeu, je me suis beaucoup reconnu dans l'aspect de la personne qui joue et que ça fait plaisir de chercher la petite bête. Je pense qu'il y a une partie comme ça, mais j'ai entendu aussi, je crois que c'est Charles Laroche, notre invité, qui disait qu'il y a aussi une fonction, et selon les personnes, il y a des personnes, par exemple, je pense à ma petite sœur, qui, la pauvre, a subi ça depuis qu'elle est toute petite, et je pense qu'avec elle, je le fais parce que je sais qu'avec moi, ce sera bienveillant, et j'ai l'impression que ça peut l'endurcir pour plus tard, si elle tombe sur des gens qui seront un petit peu moins bienveillants avec elle.
Vous avez 27 ans? Non mais parce que c'est un discours, le côté je vais t'endurcir, c'était un principe d'éducation, je dirais qu'on a vécu, on va y revenir dans un instant. Votre petite sœur, elle trouve que c'est bienveillant ou vous lui tapez sur le système? En toute honnêteté, Nicolas. Bon, bah vous me répondrez dans un instant, voilà, c'est simple. On va se retrouver dans un instant sur RTL, on marque une courte pause, ça tombe bien, on était dans le timing, Nicolas. Le temps de vous rappeler, le temps de poursuivre notre conversation, si vous souhaitez réagir, vous vous rendez sur nos réseaux sociaux, ou alors vous appelez carrément le 3210, que vous soyez un chercheur de petites bêtes ou pas. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
On poursuit notre conversation jusqu'à 15h30 avec nos invités que sont Liliane Roudière, Jean-François Marmion qui est en ligne avec nous et Charles Laroche également dans ce studio. On parle de ceux qui cherchent la petite bête, ceux qui sont toujours un peu... Alors ils vont nous dire qu'ils font là, ils jouent à l'avocat du diable. Mais en fait, il y a quand même une petite volonté toujours de contredire quoi qu'il arrive et Nicolas semble en faire partie. Je vous remercie Nicolas de témoigner sur cette antenne car rares sont ceux qui ont accepté de le faire. Vous avez l'esprit de contradiction permanent, c'est bien ce que j'ai compris.
Oui, c'est exactement.
ça vous fait marrer. Vous êtes comme ça depuis toujours?
Je pense, oui, un petit peu. Enfin, je ne sais pas si c'est lié, mais je suis un enfant d'une grande famille. Ah. Et parfois, être dans la contradiction, je pense que ça m'a permis aussi de me rendre singulier. Pas forcément d'exister, parce que je pense que mes parents avaient équilibré, mais c'est une manière d'être différent des autres, d'exister, j'existais déjà, mais au moins de vraiment être différent des...
De vous singulariser.
Exactement.
D'accord. Votre petite sœur, il y a un instant, vous nous avez expliqué qu'elle fait partie de vos proies, on va dire. Vous nous parlez d'un jeu, donc c'est un peu votre petite victime. Vous vous en prenez à elle. Quel âge a-t-elle d'ailleurs?
Elle a 4 ans de moins que moi, elle a 23 ans.
D'accord, elle a 23 ans. Je vous demandais il y a un instant, avant que ça coupe, comme par hasard, ce qu'elle en pensait, elle. Parce que vous nous avez, et d'ailleurs nos invités vont réagir, vous avez légitimé, je dirais, votre comportement en disant finalement, c'est une façon de l'aider, c'est une façon de l'endurcir, elle sait que c'est bienveillant. Est-ce qu'elle trouve réellement que à la chercher en permanence, c'est finalement bon pour elle?
Je pense qu'aujourd'hui, elle le sait. C'était plus difficile quand on était adolescent, par exemple. Déjà parce que je pense qu'on a tendance à prendre plus à cœur les choses quand on est adolescent. Et aussi, je pense que je le faisais moins bien, parce qu'il faut chercher la petite bête, mais il faut le faire bien. Chercher la petite bête sans réveiller la grosse, parfois. Et je pense que quand j'étais adolescent, j'allais trop loin. Et aujourd'hui, je pense qu'elle le perçoit comme étant bienveillant aussi, parce que maintenant, elle fait des études d'avocate. Tiens. Donc elle est meilleure que moi, en fait.
Ouais, donc,
je ne gagne plus à ce jeu-là.
Ah, très bien, parce qu'effectivement, on se demandait si on pouvait en sortir vainqueur. Je vais me tourner vers Charles Laroche, parce qu'il est avocat de formation, il enseigne la rhétorique à Sciences Po Paris, ainsi qu'à Eloquentia. Alors Charles Laroche, est-ce qu'effectivement, c'est un bon argument, pardonnez-moi, parce que vous parlez de votre sœur Nicolas qui est avocate, donc effectivement, elle a dû avoir des armes, et ça doit faire partie, j'imagine, la rhétorique, et doit faire partie des armes contre... le genre de profil qu'est Nicolas. Mais est-ce que ça endurcit vraiment? Est-ce que ça a une fonction sincèrement?
Alors justement, là, ce qui est intéressant dans le témoignage de Nicolas, c'est qu'il confond contradictoire et contradiction. Par exemple, l'avocat doit utiliser le principe du contradictoire, regarder les arguments, les opposer les uns aux autres. Là, c'est le principe, c'est la contradiction. C'est qu'on va s'opposer par principe. Et l'idée, là, le terme utilisé est génial, c'est endurcir. Comme s'il y avait un moule vers lequel il fallait diriger absolument une personne, et comme s'il fallait utiliser la parole à tout prix comme un moyen d'exister. Et en fait, alors dans le témoignage de Nicolas, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'utilise ça comme un moyen de me singulariser au sein de ma famille, et ça détourne en réalité la parole de son objet.
Ça s'entend. Maintenant, je vais me tourner vers Jean-François Marmion, vous êtes psychologue. Est-ce qu'il est bon de se faire chercher en permanence? Est-ce que ça a une véritable fonction? Est-ce que ça endurcit vraiment? Est-ce que ça aide? Est-ce que ça laisse des traces, ce genre de choses aussi?
Je pense que ça cherche à endurcir surtout le bourreau, c'est-à-dire celui qui casse les pieds à l'autre.
C'est votre jour, hein, Nicolas. Vous n'allez pas nous appeler. Hein.
Parce que Nicolas, il disait lui-même, je préfère être désagréable plutôt que risquer de passer inaperçu. Il y a une peur derrière, il y a une peur de ne pas être aimé, de ne pas être remarqué. Et je crois que Nicolas, vous n'avez pas idée des trésors d'amour que votre petite sœur aurait pour vous si vous lui foutiez la paix.
Non mais c'est intéressant, justement, Jean-François Marmion, ça peut laisser des traces.
Bien sûr que ça peut laisser des traces, ça inscrit dans l'image de soi de la victime. Ben voilà, je suis faite pour être dominée, quoi. Ouais. J'y arrive pas. Ma place, c'est en dessous.
Liliane Roudière.
Je rebondis sur ce que vient de dire Jean-François. Voilà, c'est toujours un rapport dominant-dominé, et on peut chercher l'argument de dire je veux t'endurcir, etc. Moi, je ressens dans ce que dit Nicolas, et pardon parce que, mais quelque chose qui rappelle à l'enfance et qui rappelle une incompréhension. C'est pas rationnel quand on est enfant d'être traité comme ça. Et peut-être qu'il a voulu jouer aux joutes verbales, mais je pense qu'il faut dans ce cas-là expliquer. On va argumenter.
Pour que les règles du jeu soient connues par tous.
Voilà. Pour moi, là, je n'entends qu'un rapport dominant-dominé.
Bon, alors Nicolas, pour votre défense.
Non, pour la défense, je faisais aussi attention. Faut aussi, je pense, savoir le faire et savoir les limites. Enfin, pour chercher la petite bête, faut toujours qu'elle soit petite. Je sais arrêter, je pense, au moment où ça devient trop sérieux. Si ça devient trop sérieux, je me rends compte que ça peut être néfaste. Et du coup, je m'arrête. Mais pour revenir, enfin, il y a des conseils. Vous disiez s'il y avait des traces encore aujourd'hui. Les traces que moi j'ai vues et qui m'ont fait un peu de peine, et c'est pour ça aussi que maintenant je le fais beaucoup moins, en tout cas avec ma petite sœur, c'est que du coup, même quand on est de son côté, il y a une suspicion qui s'installe à force d'être dans la contrainte. Voilà, elle doute de ma sincérité quand je suis avec elle.
Bon, alors on vous garde parce que vous êtes un super témoin. On n'a pas fini de vous cuisiner. Bah ouais, on vous retrouve tout de suite sur RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Un ami d'enfance de mon copain est comme ça, nous écrit Olivia. Comme ça, c'est quelqu'un qui cherche toujours, qui est toujours dans la contradiction, qui cherche des noises, toujours dans la provoque, à chercher tout le monde. Ça l'amuse beaucoup. Je ne l'apprécie évidemment pas. Avec ses airs supérieurs de donneur de leçons, j'ai envie de lui donner des claques. J'évite les soirées dans lesquelles il se trouve. Vous avez un pote dont la petite amie s'appelle Olivia, Nicolas?
Non, mais peut-être que je vais me poser des questions. C'est peut-être que des proches à moi vont se parer.
Non, mais pardon, parce que vous n'avez pas de bol, hein, parce que vous avez été notre témoin. On s'est dit, tiens, c'est notre nouveau meilleur copain. Il veut bien témoigner sur ce sujet. Et puis, en fait, c'est vrai que les choses sont un petit peu compliquées pour vous depuis le début de l'émission. Mais est-ce que vous vous êtes demandé, d'abord, quelle jouissance tirez-vous de ça? D'être sans cesse en train de chercher, de titiller, de contredire?
Je pense qu'il y a quelqu'un qui, un de vos invités, qui parlait d'une spécialité française un petit peu. Et je pense que oui, c'est très français de pas être d'accord avec les autres. Il y a la joie de pas être d'accord. Et puis il y a la joie aussi d'être en désaccord avec tout le monde et de prendre le dessus. C'est vrai qu'il y a un rapport de dominé et dominant. Il y a cette jouissance, je pense, au bout d'un moment, d'avoir raison, ou en tout cas, si on l'a pas, de faire en sorte quand même d'avoir raison.
Est-ce qu'il vous arrive, alors justement, c'est ça qui m'intéresse, est-ce qu'il vous arrive, de soutenir des théories, des idées avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, pour le jeu, pour le principe de la contradiction?
Alors oui, il y a même, je sais pas si c'est des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, mais parfois je sais que je me lance, j'annonce fièrement quelque chose à ma copine et je suis capable d'inventer des dates en disant, mais si je te l'ai dit, même à tel jour, d'inventer un petit peu des conversations pour essayer d'avoir raison. C'est vrai.
D'accord.
Mais c'est des petits mensonges, c'est rien de...
Ouais, mais justement, mais ce qui est dingue, c'est justement l'intérêt et toute l'énergie que vous mettez dans le petit, mensonge, justement. Mmh. C'est anecdotique et pourtant ça ne l'est pas. Vous êtes commercial dans le vin, dans votre. Je suis en train de balancer des infos. Hein. Nicolas, 27 ans, Aix-en-Provence, commercial dans le vin. Si vous le croisez, méfiez-vous. Nicolas, vous êtes commercial dans le vin. Est-ce que justement ce jeu s'applique aussi au domaine professionnel ?
Alors, j'ai l'impression d'être une personne un peu différente dans le milieu professionnel, donc j'aurais tendance à dire non. Même si ce jeu-là de convaincre la personne, oui. ou en tout cas, on la voit, mais c'est plus dans l'acte de convaincre les gens à qui je dois vendre.
Vous produits. En faites un atout.
Voilà, j'en fais un atout, mais par contre, je ne l'utilise pas, enfin, je ne le suis pas comme ça avec mes collègues.
D'accord, ok, ce n'est pas au détriment, jamais au détriment de vos collègues, c'est quelque part au détriment des gens qui vous sont proches, que vous connaissez.
Au détriment, j'espère pas au grand détriment, mais.
En tout cas, ceux avec lesquels vous vous amusez à ça, ce sont vos proches, les gens que vous connaissez.
Oui, c'est ça.
D'accord, donc vous êtes certain de dominer.
Non.
Donc vous connaissez les faiblesses.
Non, parce que j'essaye d'être quand même bienveillant, comme je dis, j'essaye de m'arrêter.
Oui.
Et je pense qu'en grandissant, on le fait moins, parce qu'on a moins ces jouissances un petit peu accessoires.
Ouais.
Parce que je m'en rends compte que c'est quelque chose dont je n'ai pas forcément besoin, que c'est un plaisir un peu superficiel. Mais c'est aussi, c'est une marque d'intérêt, je pense aussi.
D'accord. Vous avez, en tout cas, je sens chez vous une considération progressive de la sensibilité de votre prochain. Donc ça, on se dit qu'avec l'âge, ça devrait aller. Bon, alors, Liliane Roudière. Vous voulez que je vous présente Nicolas ?
Il m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que je pense qu'il confond chercher la petite bête avec quelque chose qui est très très qui se fait beaucoup, c'est casser l'autre. Je ne sais pas si
Nicolas est dans le bashing, parce qu'en fait vous m'avez l'air sympathique quand même, vous n'êtes pas dans le bashing.
Ah oui, il est tout à fait sympathique. Ouais. Êtes-vous dans le bashing ?
Non, j'ai pas l'impression, parce que, encore une fois, c'est pas forcément systématique.
Mmh.
C'est des moments de, j'allais dire des moments de plaisir, mais oui, c'est un petit péché mignon, je pense, mais c'est pas systématique.
Mais chercher la petite bête, enfin, si je m'adresse à Nicolas, chercher la petite bête, est-ce que vous faites pas un peu d'entrisme dans la vie privée de l'autre? Si c'est chercher la petite bête, ça veut dire qu'on connaît un peu sa vie, qu'on va aller tirer sur des ficelles dont on sait qu'elles vont provoquer un petit effet douloureux. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de cynisme ou un peu de
sadisme?
Merci Fabie, j'osais pas le dire.
Pour le coup, je fais toujours, autant il y a un plaisir à essayer de convaincre l'autre, de chercher un petit peu la contradiction, autant je trouve que c'est une grande traîtrise que d'utiliser quelque chose qu'on sait, quelque chose de personnel pour l'utiliser contre la personne.
Mmh. Okay.
Ça, je supporte pas.
Donc vous restez dans les clous alors, c'est bon, vous gagnez des points Nicolas. Charles Laroche.
Alors, ce qui était génial, c'est qu'avec Flavie, on a assisté à un interrogatoire grandeur nature, où de question en question, on essaie d'aboutir à la vérité.
J'essaye de le... Oui.
Et oui, mais c'était une cross-examination à l'anglaise, on serait cru dans une série américaine. Mais
ce qui
est intéressant, en fait, justement, c'est il y a deux choses. Premièrement, c'est l'idée d'avoir raison. C'est un terme que Nicolas a utilisé, qui est différent de vouloir détenir la vérité. Et en fait, c'est l'idée selon laquelle, eh bien, quand on est le dernier à avoir le dernier mot, c'est qu'on a gagné. Alors qu'en réalité, on n'a pas raison. C'est-à-dire qu'on ne détient pas une vérité en tant que telle. Et ce qui est aussi intéressant, c'est justement toutes ces dimensions de souffrance. Il y a une démarche de post-rationalisation. Après qu'on essaie de justifier en disant, mais oui, mais c'est un jeu, je définis les règles du jeu, tout ça est cadré à l'avance. Et ça, c'est quand même assez intéressant de voir comment tout ça est. Et on s'est même inscrit dans le grand esprit français. Tout à l'heure, c'était bien. Mais on essaie de rationaliser. Donc ça, c'est toujours l'idée de la petite bête. C'est qu'au final, on considère que c'est un jeu. Et comme on déclare que c'est un jeu, eh bien, on va dire que tout ça a été cadré et bien voulu et bienveillant. Voilà.
Jean-François Marmion.
Oui, alors moi, je persiste à penser que si Nicolas est comme ça avec surtout ses proches, derrière, il y a une peur d'aimer ou d'être aimé ou d'avouer qu'on aime.
Vous voyez, allongez-vous, Nicolas.
Voilà, parce que vous dites un peu à votre petite sœur, si je t'asticote, si je te fais du mal, est-ce que tu vas m'aimer quand même? Et je te fais ça toi parce que je t'aime. C'est ma façon de te dire je t'aime. Je fais pas ça avec tout le monde, tu sais. Je suis pas odieux avec tout le monde.
Bon, cogitez bien, hein, Nicolas, parce qu'on va vous laisser là-dessus. Ça, c'est comme des séances de psy qui s'arrêtent, on est bien d'accord, hein, Jean-François Marmion, parfois.
Mais en plus,
on
a, c'est gratuit.
On a touché le point, je crois que c'est vraiment, on a touché le point qui va vous permettre de réfléchir, mon petit Nicolas. On vous souhaite néanmoins une belle fin de journée. Vous allez rester à notre écoute jusqu'à 15h30. Hein, et puis,
avec
une belle
plaisir.
Fin de journée à l'écoute d'RTL. Tous mes voeux aussi de bonheur pour cette nouvelle année. On va faire un tour par l'information et on va reprendre notre conversation tous ensemble avec vos réactions qui arrivent, évidemment, sur nos réseaux sociaux. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
Mon manager n'est jamais content, nous écrit Jérôme. Il a toujours quelque chose à nous redire, comme s'il prenait un malin plaisir à nous déstabiliser. L'un de nos collègues a failli en venir aux mains avec lui à cause de son attitude. Difficile de composer avec ce type de personnes. Ce type de personnes, on leur taille un short, mais on s'intéresse évidemment aussi à eux. Jusqu'à 15h30, ce sont ceux qui sont systématiquement dans la contradiction, qui cherchent la petite bête. Quoique c'est pas véritablement la même chose, Charles Laroche.
Non, c'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Alors, d'ailleurs, dans le témoignage de Nicolas, il y avait l'idée de vouloir convaincre. Alors, convaincre, c'est quoi ? C'est faire qu'une personne pense A et à la fin d'une conversation, elle doit penser B. Là, ce dont on veut véritablement parler aujourd'hui, c'est ceux qui vont essayer de parler à A pour qu'il devienne fou. C'est même pas pour essayer de le convaincre, c'est juste pour essayer de lui provoquer une réaction. Et là, dans justement le témoignage sur l'entreprise, c'est l'idée aussi d'un rapport de domination, c'est que parler, c'est avoir le pouvoir. Et en fait, en cherchant la petite bête, eh ben, on va éviter qu'une personne soit trop dans la lumière ou se montre trop. Ou surtout quand on sait son salarié, de pouvoir justifier le fait de ne pas être augmenté à la fin de l'année. Bref, il y a tout un tas de justifications. Et donc, c'est ça dont on va parler vraiment. C'est ceux qui vont utiliser la parole pour rendre fou.
Jean-François Marmion, au-delà du plaisir de rendre fou, il y a cette quête, en fait, d'exister.
Oui, cette quête de pouvoir, tout simplement.
Au détriment de l'autre.
Vous citiez un chef qui se comportait en petit tyran, là, tout à l'heure. Si je suis chef, j'ai le droit d'être condescendant avec les autres. J'ai le droit d'être paternaliste. J'ai le droit de leur donner des leçons, de dire, mais vous y prenez mal, vous savez pas faire. Moi, je sais. Il faut que je justifie mon statut de chef. Et le fait de justifier, c'est d'avoir le droit de taper sur les autres. Je suis pas là par hasard, je suis même payé pour être condescendant avec vous. Voilà. Donc il y a vraiment effectivement un rapport de pouvoir, et exercer le pouvoir par rapport à l'autre, ça peut être aussi effectivement le rendre fou, lui faire péter les plombs, le faire sortir de ses gonds, l'humilier en gros. Ah, tu t'énerves, bon, on peut pas te parler, on peut rien te dire alors toi. Tout de suite on rentre dans ce petit jeu. On sait très bien que peu importe qui a raison, qui a tort, il faut que gagner pour la façade. Il faut avoir l'air de terrasser l'adversaire comme si les rapports sociaux étaient juste une petite joute dont il fallait sortir vainqueur pour se rassurer, pour dire voilà, je suis du bon côté de la barricade et j'ai le bon statut, celui du dominateur.
Mais est-ce que ça ne donne pas, justement, est-ce que ça ne met pas aussi en lumière, Jean-François Marmion, un vide ?
Un vide, oui, bien sûr, parce que lorsqu'on est bien dans sa peau, on n'a pas besoin de dominer les autres.
Exactement.
Quel intérêt même ? On n'a pas besoin de se rassurer, on n'a pas besoin de prouver quelque chose, on n'a pas besoin de justifier sa position, son salaire, je ne sais quoi. On est tranquille et on est en paix avec les autres quand on est bien à sa peau.
Les gens honnêtes ont-ils un avenir ? C'est votre livre, Liliane Roudière, aux éditions First. Est-ce que c'est faire montre de malhonnêteté que de se composer, que de se comporter de la sorte ?
Complètement, parce que c'est souvent l'occasion aussi pour cette personne que l'on décrit, qui ressemble fortement à un petit chef, même quel que soit le
grade, le statut.
Le grade, exactement. Oui. C'est aussi une façon de s'emparer du travail de l'autre. Alors, soit en le détruisant, soit en le récupérant, en modifiant quelques lignes dans un rapport, dans un discours, dans un et se l'approprier. Et ça c'est d'une cruauté terrible, et ça fait aussi mal que des coups, je pense. Et voilà. Et comme disait Jean-François Marmion, il y a aucune raison, quand on est bien dans sa peau et même si on dirige, tout peut très bien se passer.
En fait, il faut faire gaffe, parce que ces gens-là, lorsqu'ils ont le pouvoir, Charles Laroche, c'est là que ça peut effectivement déraper.
Alors oui, quand ils ont le pouvoir, c'est pire que tout. Mais il faut être honnête, c'est souvent les personnes qui n'ont pas le pouvoir qui cherchent la petite bête. Parce qu'il y a aussi ceux qui agissent et ceux qui critiquent. Et même si j'en ai parlé en début d'émission, il y a la notion d'opposition qui a une vertu
qui est
noble parfois.
Bien
qui est
sûr.
Intéressante, qui est nécessaire pour avoir de contradictoire. Chercher la contradiction permanente, c'est aussi le meilleur moyen de tout bloquer, parce qu'au bout d'un moment donné, et il y a des discussions quand même, on voit bien les réseaux sociaux, comment les conversations s'orientent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune recherche d'un bien commun, mais juste de l'opposition permanente, et bien ça décourage, on n'a plus envie d'agir.
Vous êtes spécialiste de la rhétorique, Charles Laroche, on avait l'impression aussi, quand on écoutait Nicolas tout à l'heure, qu'il érigeait ça comme un art.
Il dit, comme un jeu.
Comme un jeu, en disant, j'étais moins bon quand j'étais ado, je suis meilleur maintenant.
Voilà, c'est comme s'il y avait des niveaux qu'on débloquait avec des petites techniques qu'on apprenait au fur et à mesure.
C'est
il faut aller loin, pas trop loin. On définit les règles du jeu. Je sais quand je vais trop loin, je sais quand je vais pas trop loin. Et tout ça, effectivement, c'est un mode de vie. Et en fait, c'est là où justement il y a une déformation de la rhétorique, de son objet. C'est qu'on ne cherche plus à convaincre, mais qu'on cherche juste à avoir raison.
Est-ce qu'il faut connaître justement les techniques pour mieux combattre ce genre de personnage?
Alors oui, je peux pas vous dire le contraire.
Parce que ça aide, mais face à vous, une personne qui cherche la petite bête, elle doit pas faire long feu, non?
Oui, mais il faut aussi ouvrir la porte de l'honnêteté. Pourquoi les gens cherchent la petite bête? Parce que ça marche. C'est redoutablement efficace. Et même, sauf à avoir la puissance de 1000 Dalai Lama, même la personne qui connaît toutes les techniques de la rhétorique sera toujours énervée quand on essaie de l'attaquer sur des petits détails.
C'est votre cas, Liliane Rodière?
Oui.
Ça doit partir au quart de tour avec vous, non?
Non, je suis d'une patience folle.
C'est vrai?
Ah oui, je crie très très peu. Mais quand ça, effectivement, j'ai crié deux fois dans ma vie et tout le monde s'en souvient.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Ça, je pense que Charles Laroche et Jean-François Marmion ne pourront pas nous dire le contraire. Mais en revanche, vous devez les recadrer, ces gens-là, ou vous laisser les choses glisser. Parce qu'on va en parler, justement.
Moi, je suis toujours dans la profonde honnêteté et objectivité. Et ça rend fou les gens qui vous cherchent la petite bête. Ça les rend fou parce que tu dis, ok, tu me reproches ça. Enfin, pas de reproche, mais par exemple, là, tu me dis ma virgule, elle est pas tout à fait là. Est-ce que ça change vraiment? Il y a une façon aussi de prendre ces gens-là avec une forme de naïveté, d'objectivité, de factuel. Et de leur dire, et là, ça les enrage. Ils deviennent un peu, effectivement, on n'a pas besoin de crier parce que c'est...
Non, c'est pas nécessaire.
C'est ça. Ils se mettent tout seuls,
dans le coin
en
du
vrille.
Riz, quoi.
Et puis aussi, c'était de, peut-être certains se rendent compte que c'est devenu une habitude. Et qui se rapproche de la moquerie, qui se rapproche de tout ce qui se dégage, justement, par avalanche sur les réseaux sociaux, etc. Et là, des fois, certains, honnêtement, ne s'en étaient pas rendus compte.
Alors, dans un instant, Cécile va être sur cette antenne. Didier nous écrit « Je déteste ce genre de personnes. Alors, généralement, je fais semblant de rentrer dans leur jeu. Je les amène petit à petit à se contredire. Puis, je leur fais remarquer à quel point ils étaient ridicules. » Eh bien, justement, on va vous donner des trucs. Ce sera dans un instant en direct sur RTL. Ça va, Jean-François Marmion? Vous restez avec nous, hein?
Ah, bah, bien sûr.
À tout de suite.
RTL. 14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL.
Enfin bon, restez avec nous jusqu'à 15h30 quand même, parce que c'est forcément très intéressant. Dans un instant, Cécile, qui habite à Orléans, va intervenir sur cette antenne. Mais auparavant, on était en train de poursuivre le débat avec vous dans ce studio. Liliane Roudière, Charles Laroche, Jean-François Marmion, vous étiez en ligne, mais on ne pouvait pas vous parler. Mais on s'interrogeait sur notre société, Charles Laroche. Aujourd'hui.
Ce qui est intéressant dans tout ce débat, c'est au fond, il y a quand même quelque chose de profond derrière la légèreté du sujet, c'est le rapport à la vérité et le rapport à la nuance. C'est-à-dire que, premièrement, c'est que le premier objet dans une conversation, c'est quand même d'aboutir à quelque chose de vrai. Et donc ça nous rejoint à des discussions qu'on avait déjà à l'Acropole il y a 2500 ans. Et il y a aussi la notion de nuance, c'est que quand on est dans l'entreprise, par exemple, tout ne peut pas réussir. Il faut regarder l'image dans sa globalité, comme dans un tableau impressionniste, mais on ne peut pas s'attarder sur un point qui serait plus irrégulier qu'un autre. Et c'est pour ça, alors ça, on viendra peut-être aux techniques après pour aider. Il y a peut-être, qu'on voit bien dans le débat public, une des techniques qui est utilisée désormais, c'est de dire j'assume. C'est quand on fait une erreur, on dit voilà, je l'ai fait, et puis tant pis. Et c'est parfois, ça va même neutraliser tout de suite l'opposition, parce que les gens qui sont fous vont s'arrêter.
Liliane Rodière, vous avez réagi quand vous avez entendu Charles dire la solution, c'est peut-être de dire qu'on assume.
Et surtout, et derrière, c'est je m'excuse. Ouais. Je m'excuse. Alors, ce truc-là, moi, je peux plus le supporter du tout. Parce que, on dirait que c'est l'absolution totale. Ça y est, tu t'es excusé.
Oui, je présente mes excuses, donc
alors,
on en parle.
Les excuses, déjà
c'est ce que j'allais dire, on les présente.
Exactement. Mais ces gens-là disent je m'excuse.
Oui.
Et il y a des gens qui s'excusent sincèrement, d'autres c'est juste on a eu plein de politiques qui ont dit je suis désolée, maintenant j'ai beaucoup changé, je m'excuse, ça y est, ce sera plus du tout pareil. Et moi je pense aussi à la somme des gens qui ont été pris sur des petits détails qu'on a emmerdés, qui se sont excusés.
Exemple.
Alors moi j'ai un exemple qui m'a marqué, c'était en 2014, c'était un scientifique super rock'n'roll et tout, et qui était chargé, il faisait partie de l'équipe qui allait poser le robot Philae sur la Tchouri, sur la comète ou je ne sais pas quoi, Tchouri. Donc c'est un moment hyper important, c'est le résultat d'années et d'années de recherche et tout. Il est tatoué, il est vraiment très sympathique. Il a mis Philae sur sa cuisse, son robot, enfin les tatouages partout. Donc c'est super, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est vraiment le sage montre la lune et l'andouille regarde le doigt. Il se fait emmerder parce que ce jour-là, il a une chemise très colorée avec des femmes nues dessus.
D'accord. Et là, il détourne complètement le propos.
Pim. Certains réseaux féministes lui tombent dessus. Je suis féministe, je précise, mais je n'appartiens à aucun réseau justement pour pas être dans ces conneries.
Je vous rejoins.
Et en fait, ce garçon-là, en plus, il a bien dit, ce jour-là, il était tellement content que ça aboutisse, j'arrive à la fin, c'est qu'il avait en plus fait faire cette chemise par la femme de son tatoueur. Elle l'avait fabriquée, peinte elle-même.
Donc.
Et il s'est excusé platement. Et je me dis, non, mais c'est.
Non, mais on lui a cherché des noises pour un truc qui n'avait absolument rien à voir avec le sujet, qui a éclipsé, en fait.
Éclipsé complètement
la légitimité de son discours. C'est ça que vous nous dites.
Oui, c'est ça.
C'est vrai que vous m'avez pris du temps, là. Vous m'avez pris du temps sur notre technique. On accueille Cécile sur cette antenne. Bonjour Cécile. Est-ce que Cécile est là? Bon, alors Jean-François Marmion.
Ah, eh ben
Cécile.
Moi, je suis là.
Cécile, vous êtes là?
Allô?
Oui, ça y est. Bonjour Cécile.
Oui.
Alors,
bonjour,
on a un point commun, vous et moi, c'est qu'alors moi, je ne me fatigue pas avec ces gens-là. Mmh. C'est-à-dire que j'ai tendance à passer mon chemin quand je tombe sur des gens qui cherchent systématiquement la bagarre. Ça ne m'intéresse pas. Vous êtes comme moi.
Oh là là, ça me saoule.
Ouais, bah ouais. Le pourquoi du comment. Ouais.
Quelle perte de temps.
Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous ne rentrez même pas dans la conversation?
Rien.
Vous acquiescez?
Je ne fais rien.
Ouais.
Ou même pas. Des fois, je tourne le dos.
Ah oui, physiquement, c'est-à-dire que vous marquez votre désaccord en...
Mais
vous en connaissez, beaucoup des comme ça?
J'en connais quelques-uns.
Ouais. Dans quel cadre?
Tous les cadres.
C'est-à-dire professionnels,
amicaux, perso, familial, pardon.
Ouais.
Enfin, n'importe comment. Partout.
Alors parfois, c'est plus compliqué dans un domaine qui nous est proche et affectif plutôt que dans un domaine professionnel où finalement les enjeux sont tout autres.
Oui.
Comment vous faites dans ces cas-là quand vous êtes avec des gens qui avec lesquels vous êtes liés par de l'affection?
Je dis oui.
Ouais,
je
c'est
laisse
ça.
Parler en fait.
Ouais.
Je m'en fiche d'avoir raison.
Aussi,
je m'en fiche de. Enfin, ça leur fait plaisir. Vraiment, je m'en fiche. Ça n'apporte rien, je m'en fiche d'avoir raison, enfin vraiment, c'est pas important.
C'est de l'indifférence, ça glisse sur vous.
Ouais.
Et
oui.
Si on vous attaque?
Ça glisse aussi, ça dépend qui en fait.
D'accord.
Ça dépend qui.
Parce que parfois, ceux qui cherchent la petite bête aussi nous balancent des trucs sous forme de reproches.
Oui, je peux me braquer.
D'accord.
Très facilement et dans ce cas, je peux partir de la pièce quoi. Enfin, voilà,
vous, c'est l'esquive. On va dire.
Un peu, oui.
C'est pas de la lâcheté, hein. C'est du désintérêt. C'est l'esquive.
Oui.
Ouais. Jean-François Marmion, comment on fait face à des gens comme ça?
Alors moi, il se trouve que j'ai eu la chance ou la malchance, comme on voudra, de connaître le champion du monde toute catégorie des casse bonbons.
Ah ouais, bah disons, bah moi aussi, hein. Alors c'est peut-être le même.
Ah bah c'est peut-être le même. Je vous dirai le nom en rentrée.
Ouais, moi aussi.
le type horrible qu'on dit blanc, il dit noir, on dit noir, il dit blanc,
ouais,
et ça peut
ça.
Durer trois quarts d'heure. Bon. Alors moi, dans ce cas-là, j'avais trouvé un truc avec lui. Je dis d'emblée, hey, je crois bien que t'as raison, mais je préfère avoir tort.
Ouais.
Et alors là, généralement, la conversation s'arrêtait tout de suite parce que je rentrais pas dans cet engrenage qu'il cherchait, qui cherchait en salivant d'avance à la crise que j'allais pouvoir mener devant lui. Non, non, il faut surtout désamorcer l'engrenage, la partie de ping-pong que l'autre veut initier, hein, où à chaque fois on renvoie un argument un peu plus fort que la fois précédente avec un peu plus d'émotion et on monte jusqu'à l'explosion. Le premier qui explose a perdu.
Alors Loïc nous écrit: quand on me cherche, on me trouve, on n'y revient pas deux fois, ces gens-là, il ne faut pas les laisser faire, sinon ils vous pourrissent la vie. Donc lui, il est plutôt dans l'offensive. Mmh. Et Marc: ce qui nourrit ces personnes-là, c'est de nous faire sortir de nos gonds, ne leur donnons pas ce plaisir, le mieux est de couper court. Charles Laroche, c'est votre métier, vous?
Oui, c'est en un sens, oui.
Vous maîtrisez un peu les deux, en fait, parce que je suis sûr que vous êtes capable d'être très casse-bonbon, puisque vous êtes spécialiste de la rhétorique.
Alors oui, je dis pas que
vous pouvez l'être, vous avez les armes pour le faire.
Je sais que je peux le faire, je suis dangereux. Mais je suis armé et dangereux. Mais en réalité, ouais, en fait, ce qui est intéressant dans ces témoignages, c'est sur l'opposition, c'est la volonté de ne pas les laisser faire et se mettre en colère. C'est vrai que c'est parfois quelque chose qui peut être sain, mais ça nous atteint parce que déjà, ça nous renvoie une image de nous qui ne nous rend pas forcément fiers. Et c'est même quand on s'énerve et qu'on est dans son bon droit, et bien finalement, c'est souvent le propre des personnes honnêtes, c'est de se regarder en train de s'énerver et de se dire non, mais c'est pas moi et ça me ressemble pas et c'est pas bien. Mmh. Et donc, du coup, c'est quelque part, c'est pour ça que il faut dire la vérité, ça marche de chercher la petite bête, c'est efficace, c'est ça qui rend l'exercice diablement efficace, c'est que vous savez que même quand la personne s'énerve et qu'au final elle a raison, et ben vous avez gagné parce que la personne est sortie de ses gonds. Donc voilà, il faut connaître les techniques, il faut savoir soit assumer, soit esquiver le débat, il faut savoir
donc par exemple Cécile, c'est une bonne technique.
Alors,
c'est sa technique à elle, mais c'est...
Alors là où il y aurait une précision à demander, mais on ne va pas non plus prendre trop de temps,
Cécile est en ligne.
Est-ce que vous esquivez, c'est-à-dire que vous partez de la pièce sans rien dire, et donc vous donnez à l'impression l'autre d'avoir gagné le débat parce que en gros c'est un chaos technique, ou est-ce que vous laissez parler, s'épuiser, se fatiguer sans rien dire et à la fin vous dites vous avez fini et après voilà, vous reprenez votre chemin.
C'est bon ça, j'aime bien. Cécile.
J'aime bien faire ça.
La dernière option, c'est-à-dire
ouais,
bon, c'est
parler,
bon, ça y est,
parler,
t'as terminé.
Parler, puis
ouais,
c'est bon, t'as fini, t'as plus rien d'autre à dire, et ben c'est bien, je m'en fous. Et puis je m'en vais.
Il faut être patient.
Faut,
hein,
faut dire la vérité, c'est que parfois le mépris, ça fait du bien. C'est
bah
juste
oui,
de regarder
c'est
la
ça,
personne et dire après un silence, bon, t'as fini.
Mais faut être patient. Oui. Faut être patient. Faut se le farcir quand même.
C'est une patience. Et c'est clair que aussi, c'est vrai quand vous savez qu'il n'y a aucun moyen d'aboutir à un chemin de vérité, c'est-à-dire avec la conviction, la démonstration, la raison, et vous arrivez juste à, bon, bah, écoutez, j'esquive le débat, mais par l'autorité. C'est peut-être aussi l'un des mots clés de cette séance. Faire preuve d'autorité naturelle, c'est peut-être comme ça que vous pouvez vous en sortir par le haut.
Voilà. C'est toujours, en fait, Liliane Roudière, c'est face à des gens comme ça qui veulent à un moment donné nous dominer. L'idée, c'est quand même de pouvoir mettre le point final et porter les stockades, même quand on est la proie de ces gens-là.
Eh bien, il faut, là, ça ne peut se passer que dans le milieu professionnel, parce que dans le milieu personnel, amical ou familial, c'est rompre, en fait. Parce que l'autre ne supportera pas. Et là, ça devient un peu plus compliqué, parce que, ben, on fissure, au fond, une famille.
Vous avez raison, ça abîme.
Ça abîme énormément.
Ouais, ouais, dans le contexte, hein, c'est vrai, Jean-François Marmion, dans le contexte amoureux ou familial, des personnalités comme ça abîment.
Bah, ça abîme, mais ça abîme aussi parce qu'on accepte de se laisser abîmer.
Attends, quand t'as quelqu'un qui revient à la charge toutes les deux minutes, qui revient deux heures après, qui instaure une sorte de conflit toxicité, permanent, de toxicité, franchement, il y a un moment à part partir.
Oui, c'est ça, parce que là, ça tourne au harcèlement, quoi.
Bah
ça,
oui,
tourne au bizutage, ça tourne au... Oui, c'est ça. Je te piétine pour me rassurer, pour montrer que je suis dans mon bon droit. En gros, je fais du mal, je suis violent. C'est une forme de violence. Hein. Je suis violent parce que je sais pas exister autrement à tes yeux.
Oui, mais alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes psychologue. On frôle quelque part la perversité, là.
Oui, c'est ça. Donc, il faut casser les mécanismes habituels, comme si on jouait une espèce de tragicomédie en permanence. Il faut trouver de nouveaux moyens d'être dans son rôle, ou fausser le rôle, fausser l'histoire qui est attendue de nous. Il faut vraiment se mettre dans la tête que la personne qui nous harcèle a un scénario qu'elle veut nous voir adopter. Ouais. Il faut en adopter un autre, il faut déjouer ses attentes.
Ne pas lui donner ce qu'il attend.
Exactement.
Ça a l'air difficile, hein, Liliane
Roudière.
Oui,
je pense que je suis d'accord, mais ça doit être très difficile parce que je pense que c'est comme victime-bourreau. Le bourreau repère très bien la victime et cette victime-là ne se débattra pas comme elle doit le faire. Mais
c'est Sandra, hein, Sandra qui peut conclure. J'ai été confrontée à ce genre de personnes, il vaut mieux les laisser de côté, sinon on ne s'en sort jamais. C'est un conflit permanent et tout ça, bien évidemment, ça épuise. Cécile, merci beaucoup de nous avoir éclairé en fin d'émission sur votre technique qui semble être une bonne technique. Donc ça me rassure aussi parce que c'est la mienne. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, Cécile, et je vous embrasse.
Aussi.
À très bientôt sur cette antenne. Au revoir, Cécile. Bon, bah, Jean-François Marmion, j'espère qu'on vous reverra un jour, hein, quand vous aurez pris votre tracteur et que vous viendrez jusqu'à Neuilly.
Bah, voilà. Que je fasse le plein, et puis voilà. Hein.
Bah, non, mais c'est bien parce que vous avez la chance de pouvoir profiter de la campagne. Donc
ça, pour le coup, c'est
fabuleux. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous, Jean-François Marmion, psychologie de la connerie en politique. C'est aux éditions Sciences Humaines. Merci beaucoup, Liliane Roudière, d'être venue aujourd'hui. Les gens honnêtes ont-ils un avenir aux éditions First? Et c'est chez le même éditeur qu'on retrouve justement le grand oral du bac pour les nuls. Bon, ça, ce sera pour plus tard. Et puis, attends, il n'y a même plus d'oral au bac là.
Oh, ça va revenir.
Ça va revenir.
Gardons espoir.
Ouais. Et le petit manuel de la mauvaise foi, c'est savoureux aux éditions First. Merci beaucoup.
Merci, Flavie.
Charles Laroche. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain dès 14h30 en direct sur l'antenne d'RTL. D'ici là, prenez bien soin de vous, vivez masqué. Je vous embrasse quand même, puisqu'à la radio, on a le droit de le faire.
RTL, on est fait pour 100 ans. Bonjour, c'est Bruno Guillon.
Bonjour, c'est Bérénice Bourgueil.
Tout à gagner. Tous les matins, 11h30, 12h30, vous avez tout à gagner sur RTL.
C'est-à-dire 1000 euros par jour à remporter en répondant tout simplement à des questions.
Oui, vous allez apprendre, vous allez vous amuser, vous allez vous amuser à apprendre. C'est pas mal ça comme formule. Hein.
C'est pas mal, on peut la noter, vous allez vous détendre aussi.
Tout à gagner, présenté par Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil. C'est du lundi au vendredi à 11h30 sur RTL et à tout moment en replay sur RTL.fr.